premier désir de Marie comme mère et reine sur nous lorsque nous lui confions tout le progrès de notre vie surnaturelle, toute la formation de notre vie surnaturelle, lorsque nous lui demandons d'exercer sur nous son rôle d'éducatrice efficace comme reine. C'est de nous donner cette soif de la contemplation en nous faisant comprendre que l'horizon doit maintenir en nous cette soif. L'horizon nous permet déjà dès cette terre d'avoir cette soif de contemplation. Sur la terre, on ne peut avoir que soif de contemplation. Il y a des moments de contemplation. Et quelqu'un qui dit « je suis un contemplatif », j'ai toujours très peur, parce que la contemplation sur la terre, c'est un grand appel. C'est au ciel qu'on sera des contemplatifs. On est fait pour être des contemplatifs. Notre grâce chrétienne implique de pouvoir vivre comme Dieu lui-même vit, comme le Christ lui-même vit. Mais sur la terre, c'est à travers la foi, à travers l'espérance. C'est toujours dans une très grande pauvreté et toujours dans une lutte. Il faut bien comprendre que le démon a horreur de nous voir faire horizon et de maintenir en nous une soif de contemplation. Et le démon essaiera par tous les moyens de nous faire croire que c'est du temps perdu. Parce que c'est vrai, c'est du temps perdu pour le démon. Vous comprenez bien. C'est du temps gagné pour le ciel, mais du temps perdu pour le démon. Et c'est du temps perdu pour l'efficacité concrète des hommes de la terre, selon le langage de l'Apocalypse. C'est pas efficace de faire horizon. D'une efficacité humaine. C'est efficace divinement. C'est faire que notre cœur s'oriente directement sur le cœur de Jésus. Et c'est pour cela que saint Thomas considère que l'horizon, c'est les fiançailles de notre âme avec Jésus. Et il prend cet exemple très étonnant des noces de Cana, en disant que si les noces de Cana sont prises d'une façon mystique, c'est le mystère de l'horizon. Il dit ça dans son commentaire sur saint Jean, à propos des noces de Cana. Et saint Thomas ne cite aucun père de l'Église, donc c'est lui qui l'a trouvé. Et c'est très beau de voir que Jésus commence sa vie apostolique par le miracle de Cana, qui est un signe qui exprime le mystère de l'oraison. Donc on peut dire que la première chose que Jésus éduque à ses apôtres, c'est le mystère de l'oraison. Et c'est toujours là où il faut venir. Vous savez ce que disait la grande sainte Thérèse ? Ici, il faut le rappeler. Dans les moments de grande crise, il faut prendre les grands moyens. Et je crois que Thérèse d'Avila dirait que nous vivons une grande crise, une terrible crise. Dans les moments de grande crise, il faut prendre les grands moyens. Et le grand moyen, c'est l'oraison. Et l'oraison, exercice de notre vie théologale. C'est par là que nous nous orientons directement vers Jésus. Directement. Sans intermédiaire, en nous servant de la parole de Dieu, en nous servant de telle parole de Jésus. Je suis la lumière du monde, je suis la résurrection. C'est suffisant comme parole. Il vaut mieux répéter intérieurement des paroles de l'Évangile que nous connaissons et que nous disons avec foi que de prendre un livre de spiritualité. Un livre de spiritualité, c'est trop facile, voyez. C'est très bon comme lecture, en dehors de l'oraison. C'est très bon. Mais l'oraison, c'est un mode.